Bonjour, que Seigneur vous bénisse. J'espère que vous allez bien. J'espère que votre semaine se déroule bien jusqu'à maintenant. Nous sommes de retour dans notre rendez-vous habituel, hebdomadaire des mercredis pour poursuivre avec l'étude de la parole de Dieu et plus précisément sur une thématique que le Seigneur a mis dans mon cœur depuis l'an dernier et que dans le fond, depuis bientôt quasiment 50 semaines, on a été en train de rouler là-dessus, d'apprendre, d'enrichir nos vies par rapport à la parole de Dieu, puis par rapport aussi au service. Donc j'espère que autant pour moi que pour vous, c'est une bénédiction, que vous êtes richement bénis, que ceci a une portée pratique dans votre vie et que vous le mettez en pratique et que vous voyez des changements. C'est pas parce qu'on est en pandémie qu'on arrête de servir ou qu'on est en confinement. Donc le service, comme on l'a vu depuis tant de semaines, c'est pour toute la vie, ça touche tous les aspects de la vie. Et donc, à chaque jour, nous avons des opportunités de servir Dieu, de servir l'Église, de servir la communauté. Et c'est le but de cet enseignement, de cette série d'enseignements, dans le fond, de mieux comprendre, de mieux préparer, de mieux équiper également l'ensemble du corps de Christ. Parce que c'est le service, et surtout dans les temps que nous vivons, qui sont remplis de défis. Donc, sans plus tarder, on va prier, on va remettre ce temps entre les mains du Seigneur, et par la suite, eh bien, on va rentrer dans le vif du sujet. Seigneur, nous te rendons grâce, nous te remercions pour ta bonté et ta fidélité. Merci, Seigneur, parce que tu es avec nous, parce que tu nous parles et tu nous enseignes. Tu nous montres, Seigneur, des choses qui sont dans ta parole, qui sont là pour notre bien, pour notre croissance, Seigneur, pour notre entendement, qu'on puisse comprendre ta volonté, Seigneur, et pouvoir agir et vivre conformément à elle, mais aussi dans toute la plénitude, Seigneur, de cette grâce, de cette puissance, de cette gloire qui est la tienne, et que tu manifestes à travers nous, à travers l'Église. Alors, Seigneur, prends contrôle de ce temps, que ce partage, Seigneur, soit une source de rafraîchissement, de bénédiction, Seigneur, pour nos âmes, pour nos vies, avec une portée, Seigneur, aussi pratique, Seigneur, dans la réalité, Seigneur, dans laquelle nous vivons. Je te remercie déjà pour tout, en ton précieux nom, Jésus. Amen. Donc, je vais tout de suite partager l'écran, comme ça sera fait. Et on va pouvoir, dans le fond, commencer. Voilà. Si vous voyez, petit détail, si vous voyez comme une ligne jaune sur votre écran, là, près de mon visage, ne jetez pas votre appareil. c'est un reflet de la lumière dans le fond ici, là. Donc j'ai essayé de jouer un petit peu là, avec ça. Mais bon, bref, des petits trucs, des petites choses techniques, là, mais c'est pas votre écran là, qui est pas bon et qu'il faut acheter un autre écran, là. Donc voilà, je voulais juste préciser cela. Donc, on continue cette semaine sur le thème de l'autorité. Pourquoi? Ben, parce que c'est le Seigneur qui nous dirige. Et comme on l'a fait depuis le début, des fois, on s'est arrêté sur certains passages pendant plusieurs semaines parce qu'il fallait approfondir. Le Seigneur voulait qu'on approfondisse certaines notions, qu'on comprenne peut-être un petit peu plus de façon détaillée certains concepts, certaines vérités qu'il y a dans sa parole. Et dans d'autres, on est allé pas mal plus rapidement. Et je pense qu'au niveau de l'autorité, c'est vraiment important de connaître tous les différents volets, si on peut dire, qui concernent l'autorité et qu'on retrouve dans la parole de Dieu. Donc la semaine passée, on avait parlé de l'autorité de Christ. Cette semaine, on parle de l'autorité de l'Église. Et je pense que n'importe qui veut servir Dieu doit comprendre ces notions-là, d'avoir au moins une base de ces principes-là et de savoir, ben, je travaille sous quelle autorité, premièrement, et je sers sous quelle autorité, et qui est cette autorité-là qui m'a appelé à son service, et également, ben, moi, je travaille avec quelle autorité, je sers. Avec quelle autorité? Donc ça, je pense que c'est important qu'on puisse le savoir déjà à la base. Je l'avais dit il y a quelques semaines aussi que l'autorité est un concept parfois mal compris, mal connu et donc mal appliquée. Et ça ouvre la porte à des erreurs, à de mauvaises décisions, à de mauvaises pratiques aussi, comme la manipulation, l'abus de confiance, toutes ces choses-là. Je pense que c'est important qu'on sache également, ben, si je sers le Seigneur, quelle est l'autorité de celui qui m'a établi, et également moi, ben, quelle autorité j'ai pour pouvoir servir et servir en temps de défi. Donc aujourd'hui, on traite de l'autorité de l'Église, puis on reste encore campé dans le fond sur le passage de Marc au chapitre 11, versets 27 à 33. On va le relire, mais on ne va pas vraiment étudier ce passage-là. On va pas mal se promener dans la Bible pour aller explorer un petit peu qu'est-ce que la Bible nous dit par rapport à l'autorité de l'Église. Donc on va lire dans Marc chapitre 11, versets 27. Ils se rendirent de nouveau à Jérusalem, et pendant que Jésus se promenait dans le temple, les principaux sacrificateurs, les scribes et les anciens vinrent à lui et lui dirent: Par quelle autorité fais-tu ces choses? Et qui t'a donné l'autorité de les faire? Jésus leur répondit: Je vous adresserai aussi une question. Répondez-moi et je vous dirai par quelle autorité je fais ces choses. Le baptême de Jean venait-il du ciel ou des hommes? Répondez-moi. Ils raisonnèrent ainsi entre eux. Si nous répondons du ciel, il dira: Pourquoi donc n'avez-vous pas cru en lui? Et si nous répondons des hommes, ils craignaient le peuple, car tous tenaient réellement Jean pour un prophète. Alors ils répondirent à Jésus: Nous ne savons. Et Jésus leur dit: Moi non plus, je ne vous dirai pas par quelle autorité je fais ces choses. Donc, concept d'autorité, la même question qui a été posée à Jésus, elle pourrait être posée à l'Église aujourd'hui. Par quelle autorité, l'Église, tu fais ce que tu fais? Donc, je pense que c'est pertinent d'avoir quand même un bref survol de ces notions-là. On va faire un petit résumé, une petite synthèse de ce qu'on avait vu jusqu'à maintenant. Donc, une autorité, c'est quelque chose qui est donné. Le terme grec, c'est exousia, c'est le pouvoir de choisir, une permission, un droit, une juridiction sur un territoire ou sur des personnes. On a également le droit de commander, le pouvoir d'imposer obéissance. Donc, quand je parle avec autorité, c'est parce que j'impose une obéissance. J'impose à ce que on considère ce que je suis en train de dire et qu'on s'enligne avec cela. Jésus, lui, parle de deux types d'autorité, autorité céleste et autorité terrestre. Et également, ben, il y a une autorité au niveau des hommes et qu'on le retrouve dans la société un peu partout. Mais il y a également une autorité céleste. Et les différences entre pouvoir et autorité, une personne qui a le pouvoir n'a pas nécessairement l'autorité. Le pouvoir est défini par le statut, par le poste d'une personne ou par la capacité d'une personne. Mais l'autorité, l'exercice de ce pouvoir-là pour se faire obéir. Donc, une personne peut avoir le pouvoir et manquer d'autorité. Et comme je l'avais expliqué, je pense, la semaine dernière, un policier, mettons à Montréal, a une autorité, il représente la justice, représente la loi. Et il a un pouvoir aussi, il a une arme avec lui, il a des capacités pour exercer cette autorité-là sur le territoire de la ville de Montréal. Mais s'il va dans un autre pays, s'il va à Miami, s'il va à Los Angeles, pourra aller avec toutes ses armes, donc il pourra aller avec tout son pouvoir, mais il n'a aucune juridiction, donc il n'a aucune autorité d'exercer ce pouvoir-là sur ce territoire-là. Et donc, c'est important parce que bien des fois, on va attribuer des choses, par exemple, au diable, et on va lui donner des choses qu'il n'a plus, qu'il a perdu à cause de la crucifixion, à cause de la mort et la résurrection de Jésus. Et donc, c'est important de retenir ces choses-là parce que ce sont deux concepts différents. Et en ce qui concerne Jésus, et comme on l'a vu la semaine dernière, bien lui, il a toute autorité, et puis il a tout pouvoir dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Donc, on va rentrer maintenant dans le sujet de l'autorité de l'Église. Et on a vu la semaine dernière que, dans le fond, Jésus est la tête de l'Église. Donc, l'autorité qui est placée sur l'Église, c'est l'autorité de Jésus-Christ. Et ça, c'est important à retenir parce que l'Église ne fonctionne pas par une autorité qui vient d'elle-même. C'est pas ce que la parole de Dieu nous montre et nous enseigne. Et on le voit déjà dans l'Ancien Testament, on le voit que l'autorité qu'avait le peuple de Dieu était une autorité déléguée de Dieu. Et l'autorité également qu'a l'Église aujourd'hui, c'est une autorité qui a été déléguée par le Seigneur Jésus-Christ. Et l'autre point essentiel, c'est que c'est une autorité qui est conditionnelle, ou plutôt l'impact de cette autorité-là est conditionnel à l'obéissance à la parole de Dieu. Et si on le voit autant dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament. Dans Deutéronome chapitre 28, verset 1, nous lisons: Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. On voit ici deux choses. On voit que la supériorité ou l'autorité que Dieu veut déposer en Israël, elle est conditionnelle à l'obéissance du peuple de Dieu face au commandement, donc face à la parole du Seigneur. Je veux attirer votre attention sur le terme supériorité qui, ici, est dans la racine hébraïque, le mot Elion, qui veut dire très haut. C'est un nom de Dieu, c'est un qualificatif de Dieu qui est employé à plusieurs reprises dans la Bible. Le Dieu très haut ou le très haut, c'est Elion, donc le supérieur, celui qui est en supériorité, qui est élevé, qui est exalté au-dessus de quelque chose, d'une nation, de toutes les nations, de tout l'univers, de toute la création. Donc, ici, supériorité, c'est un qualificatif de Dieu, ou on pourrait dire même un nom de Dieu, que c'est El Yon. Et ça, c'est important à retenir parce que ce que ça voulait dire pour le peuple d'Israël, dans le fond, le peuple de Dieu, c'est que l'obéissance à la parole de Dieu entraîne et l'obéissance du cœur. Parce qu'à un moment donné, les gens suivaient quand même les rituels qui étaient établis dans l'ancienne alliance, mais le faisaient de façon mécanique. Et le Seigneur, pardon, leur dit: ben, vous m'honorez avec vos lèvres, mais votre cœur est loin de moi. Donc c'était rendu mécanique. Et donc l'obéissance du cœur entraîne une séparation avec le monde. Et là où est-ce que nous, on pense bien des fois que cette séparation-là met l'Église dans un désavantage, met l'Église dans une met le peuple de Dieu dans une position défavorable, dans une position inférieure, parce que là, c'est la bande à part qui n'est pas comme le reste du monde. Donc, le reste du monde étant plus nombreux, étant plus grand. Mais souvent, lorsqu'on se dit de vivre à part, d'être séparé de Dieu, d'être séparé du monde, les gens le voient comme quelque chose de négatif, quelque chose qui va les placer, pas nécessairement dans une position favorable ou dans une position avantageuse, mais c'est tout le contraire. Oui, l'obéissance du cœur entraîne une séparation avec le monde, parce que ce que Dieu s'attendait du peuple d'Israël, tout comme ce que Dieu s'attend de l'Église, c'est qu'il y ait une séparation avec le monde, c'est qu'il y ait une consécration du peuple de Dieu, c'est qu'il y ait une mise en pratique des commandements, un suivi de la parole de Dieu, une obéissance à la parole de Dieu qui va marquer une différence avec le reste du peuple. Mais cette différence-là va amener le peuple à s'identifier avec son Dieu de façon très, très, très proche, très intime. Et c'est là le point où ce que Dieu veut nous amener. C'est là où ce que Dieu voulait amener Israël et c'est là où ce que Dieu amène l'Église aussi. Que dans cette consécration, le peuple soit porté à refléter le nom de Dieu, soit porté à refléter Dieu dans tous ses attributs, dans toute la plénitude de son caractère, de sa richesse, de sa gloire, de sa puissance, mais aussi de sa sainteté. Et c'est là où est-ce que se révèle dans le fond à travers le peuple de Dieu, les qualificatifs de Dieu, dont celui de très haut. Et donc si Dieu est le très haut sur toute la création, qu'il n'y a personne par-dessus lui, donc il n'y a aucune autorité par-dessus lui, eh bien le peuple de Dieu devient alors le Élion de toutes les nations et de toute la terre. Et c'était principalement ce que Dieu disait à Israël. Il disait, si vous êtes obéissant, si vous appliquez la parole de Dieu, si vous vous approchez de moi, eh bien, je ferai de vous le Élion. Vous serez la supériorité sur toutes les nations de la terre. Vous serez la lumière du monde. Et c'est important de faire ce parallèle-là parce que l'Église, dans son appel, l'Église dans la vision de Dieu, l'Église dans la mission de Dieu n'a pas une cible inférieure, a une cible encore plus, a une destinée encore plus glorieuse, encore plus merveilleuse à travers Jésus-Christ et à travers l'autorité qui a été établie en Jésus-Christ. Et ça, c'est important de le comprendre. Marquez encore ce que Dieu dit à Israël. Il leur dit, afin qu'il te donne sur toutes les nations qu'il a créées, encore une fois, la supériorité, Elion, en gloire, en renom et en magnificence, afin que tu sois un peuple saint pour l'Éternel, ton Dieu, comme il te l'a dit. Donc la sainteté amène cette autorité-là. On ne peut pas dissocier les choses. Et je pense que je vous l'avais dit lorsqu'on parlait justement de la vie de Joseph et comment la vie de Joseph, dans le fond, nous présente un homme d'autorité, un homme qui a passé à différents niveaux d'autorité, mais comment aussi par le fait que Joseph s'est gardé d'un point de vue moral. Il n'est pas allé vers la femme de Potiphar ou il n'a pas cédé à la femme, aux avances de la femme de Potiphar. Que ça l'a amené à une plus grande autorité. Lorsqu'il est devenu, dans le fond, responsable de tous les prisonniers, il a été placé par-dessus tous les prisonniers, donc tous ces centaines et ces milliers d'hommes. Joseph a été placé là. Et bien des fois, on se dit, ah ben, le pauvre, il était dans une maison, il s'est retrouvé en prison, donc. Juste pour vouloir bien faire les choses devant Dieu, mais ben il a perdu. Non, il y a eu une promotion. Il y a eu une promotion parce que dans la maison de Potiphar, il était peut-être responsable, il y avait peut-être une autorité sur une dizaine de personnes, une trentaine maximum. Mais là, parce que lui, il s'est maintenu dans la sainteté, dans sa crainte de l'Éternel, eh bien, Dieu l'a promis à quelque chose de plus grand. À être un gestionnaire, si on peut dire, à être responsable, avec une plus grande autorité. Et ça, ce point de vue-là, c'est important de le voir. Donc, afin que tu sois un peuple saint pour l'Éternel, donc un peuple consacré, un peuple dédié à Dieu, et donc un peuple supérieur à toutes les nations, un peuple avec une autorité supérieure à tous les autres peuples de la terre. Et donc, c'est pour ça que c'est important de revenir sur la notion que c'est conditionnel. L'impact de cette autorité, la portée de cette autorité-là dépendait du peuple d'Israël, mais ça dépend de nous aussi, en tant qu'Église. L'autorité que l'Église va avoir et va être en mesure d'exercer est aussi conditionnelle au respect et à la consécration que l'Église va avoir. Une Église ou un croyant qui joue avec la sainteté, qui joue avec la morale, il va avoir des problèmes au niveau de l'autorité. Et on va voir plus loin que l'autorité que Dieu nous donne est importante, est essentielle pour l'existence même de l'Église. Donc ça, c'est important ici. Élion, supériorité, Dieu est le Très-Haut. Israël est le Très-Haut aussi parmi toutes les nations. Et l'Église également, eh bien, était destinée à être glorieuse. Et lorsque Dieu dit, Jésus dit, allez dans toutes les nations, tout pouvoir m'a été donné. Il est en train de dire, je suis Élion, Toute autorité m'a été donnée dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Dans cette nouvelle alliance, je suis Elion. Et donc, vous allez à toutes les nations et vous également, vous serez Elion dans toutes les nations. Il y a un beau parallèle qu'on peut voir là par rapport entre le peuple de Dieu et l'Église, mais également un point en commun. Comme je dis, c'est une autorité qui est conditionnelle à l'obéissance à la parole de Dieu et donc à la consécration de celle-ci par rapport à Dieu. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que le contraire est vrai. C'est pour ça qu'on parle beaucoup on met beaucoup d'emphase aujourd'hui sur le fait que c'est conditionnel. Parce qu'en Deutéronome 28-25, on voit ceci. L'Éternel te fera battre par tes ennemis. Tu sortiras contre eux par un seul homme et tu t'enfuiras devant eux par sept chemins. Et tu seras un objet d'effroi pour tous les royaumes de la terre. Ça, c'est l'autre côté de la médaille. Si jamais le peuple d'Israël se détournait de Dieu et donc ne se consacrait plus à Dieu et n'obéissait plus à la parole qui leur avait été donnée à ce moment-là, eh bien, il y aurait des conséquences aussi dans lesquelles il n'y aurait aucune autorité face aux autres nations et donc les ennemis viendraient et profiteraient et il y aurait dans le fond des dommages qui seraient faits au peuple de Dieu. Et ça va même plus loin. Dans Deutéronome, toujours 28, au verset 37, il dit, et tu seras un sujet d'étonnement, de sarcasme et de raillerie parmi tous les peuples chez qui l'Éternel te mènera. Et ça, on l'a vu dans l'histoire d'Israël, lorsque Israël s'est détourné de Dieu, ils sont allés vers d'autres dieux, vers l'idolâtrie et vers les abominations aux yeux de Dieu, eh bien, il y a eu des conséquences où est-ce qu'ils ont été assujettis, ils n'ont pas été dans une position d'autorité, mais ils ont perdu cette autorité-là et ils ont eu beaucoup de misère avec les ennemis et également, ben, il y a eu de la moquerie, il y a eu du sarcasme, la raillerie. Et ça, c'est important. Parce que un croyant, un chrétien qui, comme on l'a vu les semaines aussi antérieures, qui est charnel, un croyant qui a été baptisé, mais qui continue à vivre comme dans son ancienne vie, bien, il va avoir des problèmes. Il n'y aura pas une autorité spirituelle forte parce qu'il n'y a pas une autorité morale forte non plus. Et donc, il va avoir des problèmes avec des luttes constantes, avec la tentation, avec les passions de la chair. Et dans la plupart des cas et du temps, il va être toujours en position défavorable, toujours en train de chuter, de tomber dans les mêmes choses, tout le temps revient dans les mêmes problèmes, revient dans les mêmes situations, revient dans les mêmes émotions, dans les mêmes états d'âme. Et c'est un cercle, si on tourne en rond constamment, il n'y a pas de progrès, il n'y a pas de croissance spirituelle, il n'y a pas de maturité spirituelle. Et ça peut aller loin jusqu'à ce que le peuple devienne un sujet, dans le fond, de raillerie et de moquerie. Et ça, je ne peux pas m'empêcher de faire un comparatif, dans le fond, avec l'Église, de façon générale, en Occident, où le christianisme, mais bien des fois les chrétiens aussi, sont moqués, sont pris avec sarcasme, sont pas pris dans le fond avec respect parce que il y a cette autorité-là spirituelle qui est manquante parce que l'Église en Occident, elle est impliquée dans beaucoup de choses. Oui, certes, mais la consécration à Dieu, je pense qu'il y a, il y a du travail à faire. Il y a à faire là-dessus, l'obéissance à la parole de Dieu, la sainteté, c'est des choses que l'Église en Occident a énormément de difficultés. Et parce qu'elle a énormément de difficultés avec cela, elle a des difficultés aussi avec l'immoralité, avec l'éthique et avec la sainteté à l'intérieur même d'elle. Et donc, dans sa façon de se projeter dans le monde, bien des fois, elle n'est pas prise au sérieux. Et même, on rit de nous, on ne nous prend pas au sérieux parce que, justement, il y a un manque à ce niveau-là. Donc, le contraire est aussi vrai et on le voit également dans l'Apocalypse, lorsque, dans le fond, Le Seigneur dit à l'apôtre d'écrire les lettres aux sept églises, aux églises des derniers jours. Ben, on remarque que pour la plupart de ces églises-là, elles ne sont pas dans une condition qui est favorable, qui est forte. Elles ont tous des reproches, principalement parce qu'il y a un manque de consécration. Donc aujourd'hui, ça c'est un défi pour l'Église et c'est un défi pour n'importe qui veut servir Dieu. Le service à Dieu ne se fait pas quand j'en ai envie ou quand j'en ai pas envie. Il y a une consécration qui est nécessaire, mais une consécration qui est aussi basée sur une obéissance à la parole de Dieu. Et si ces choses-là sont pas présentes dans notre vie, si ces choses-là sont pas présentes dans l'Église, ben, il va y avoir des problèmes. Et il va y avoir des problèmes aussi avec l'autorité que Dieu nous a confiée. Donc, il y a du défi là, et je pense qu'ici, c'est important qu'on puisse faire chacun une introspection, qu'on demande au Seigneur qu'il nous parle de façon personnelle. Où est-ce que nous en sommes ici dans tout ça là? Est-ce que nous sommes comme Elion, ou plutôt sommes-nous dans plein de problèmes parce que justement, il y a un manque de consécration? Je pense que ce sont des bonnes réflexions à avoir de ce temps-ci. Nous poursuivons. On va aller maintenant dans des passages bibliques qui vont démontrer deux axes, deux volets. Je pourrais en avoir plus, mais le Seigneur, ce qu'il m'a donné pour partager, c'est ceci. C'est que l'autorité qui est donnée à l'Église a deux buts ou deux objectifs. Je pourrais en avoir plus, mais on pourrait les regrouper dans deux grands groupes dans le fond. Et le premier groupe ou le premier aspect, ce serait pour lui permettre d'accomplir l'œuvre de Dieu sur terre et pour lui permettre d'avoir la supériorité sur ses ennemis spirituels, donc sur tous ceux qui attaquent l'Église, tous ceux qui veulent détruire l'Église, tous ceux qui veulent empêcher l'Église d'être l'Église et de faire son travail. En tant qu'Église. Remarquez une chose, c'est qu'ici, on ne parle pas d'autorité sur des hommes. La Bible dit clairement que nous ne combattons pas contre la chair et le sang, mais contre les forces spirituelles. Donc l'autorité qui est déposée sur l'Église, c'est une autorité spirituelle qui a un impact sur le monde spirituel, parce que le monde spirituel a un impact sur le monde naturel. Peut-être la semaine prochaine, on va regarder l'autorité qui est dans l'Église. Et ça, c'est aussi un autre aspect qui est important à connaître et à découvrir. Mais pour aujourd'hui, on va parler de ces deux aspects-là. Donc, une autorité pour lui permettre d'accomplir l'œuvre de Dieu et une autorité également pour avoir la supériorité sur ses ennemis spirituels. Donc, allons avec le premier point. Autorité pour accomplir l'œuvre de Dieu. Qu'est-ce que la Bible nous dit là-dessus? Dans Matthieu chapitre 28, versets 18 et 19, on connaît bien ces versets-là. C'est la grande commission de Jésus-Christ pour les disciples, pour l'Église, d'aller partout dans le monde. Et Jésus, dans le fond, fait cette déclaration-là en disant, premièrement, que tout pouvoir, et donc toute autorité, la traduction exacte ici devrait être autorité, m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Et là, il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Et donc, parce que je suis, comme je disais tout à l'heure, comme parce que je suis le Élion sur toute la création, allez avec cette autorité-là pour accomplir l'œuvre de Dieu. Vous avez cette autorité-là pour aller dans toutes les nations. Parce que je suis Élion, le Très-Haut, parce que je suis le supérieur, dans le fond, vous allez dans toutes les nations avec cette autorité-là. Pour prêcher l'évangile, pour faire des disciples et pour les baptiser, en leur enseignant à être obéissant à tout ce qui vous a été enseigné. Donc le premier élément ici, c'est que oui, Dieu nous a donné et a donné à l'Église l'autorité d'aller dans toutes les nations. C'est un droit, c'est une permission. C'est une juridiction qui a été donnée à l'Église. Ceci étant dit, il n'y a pas de gouvernement, il n'y a pas de régime qui peut résister cela. Et l'Église, même s'il se fait buter à des portes fermées, doit continuer à faire son travail et à voir comment est-ce qu'elle peut atteindre les gens à travers l'Évangile. C'est important parce que c'est une autorité qui a été déposée dans l'Église et qui vient aussi avec cette responsabilité-là pour tous et chacun d'aller partout dans le monde, dans toutes les nations et de prêcher l'Évangile. Un autre verset, retrouvons dans Marc chapitre 16, versets 17 à 19, ça aussi c'est un classique, on le connaît tous presque par cœur. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront nouvelles langues, et là ça continue, que s'ils boivent des substances vénéneuses, ils ne seront pas atteints, qu'ils imposeront les mains sur les malades seront guéris. Et donc il y a une énumération de choses qui vont accompagner, de miracles qui accompagnent ceux qui auront cru en son nom. Et on l'a vu la semaine dernière que le nom de Jésus est une autorité également, est une autorité qui est reconnue dans toute la création, dans toute l'univers, que ce soit dans la sphère invisible, c'est-à-dire spirituelle, ou la sphère visible, la création, le naturel. Tout cela est soumis et reconnaît l'autorité qu'il y a dans le nom de Jésus-Christ. Et donc Jésus ici il dit, ben voici ceux qui croient en mon nom, ceux qui adhèrent à mon autorité, qui se conforment à mon autorité, ben en mon nom, c'est-à-dire dans mon autorité, ils chasseront les démons. Et donc ici, l'Église fonctionne pas avec une autorité qui lui est propre. On doit comprendre ça. L'Église n'est pas autosuffisante. L'Église dépend entièrement de la tête qui est Jésus-Christ. Et donc ici, l'autorité que l'Église a est de chasser les démons, de parler de nouvelles langues, d'imposer les mains sur les malades et qu'ils soient guéris. C'est une autorité qui vient du Seigneur Jésus-Christ. Donc on ne rentre pas dans l'improvisation ici. On n'est pas en train de faire un spectacle. On ne fait pas les choses pour bien paraître, nous, pour que les gens nous disent, ah, regarde ce qu'il fait, puis les miracles auxquels il est en train de faire. Non, on le fait parce qu'il y a une autorité qui a été donnée à l'Église de le faire. Et donc, oui, l'importance de la foi, bien sûr, mais l'importance aussi de comprendre que cette autorité-là, l'Église a, et le croyant l'a, tous ceux qui croient dans le nom de Jésus, il y a cette autorité-là dans son nom. Un autre verset également, ce qui est important, et je vous inviterai même à explorer cela, c'est dans le livre des Actes. Si vous voulez comprendre l'autorité de l'Église pour accomplir l'œuvre de Dieu, le livre des Actes est très bon là-dedans pour découvrir davantage parce que ça nous parle justement des actes de l'Église primitive, des premiers croyants et donc de ce qu'ils ont fait avec l'autorité qu'ils ont compris avoir reçue de la part de Dieu. Et donc dans Actes chapitre 4, verset 33, les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus et une grande grâce reposait sur eux tous. Donc également avec l'autorité que l'Église avait, bien les apôtres allaient avec beaucoup de force et rendaient témoignage. Et pour ceux qui connaissent un peu ce passage-là dans Actes chapitre 4, c'est lorsque les disciples ont eu les menaces, ils se sont fait battre de verges, ils ont été emprisonnés, on les a battus à cause qu'ils prêchaient l'Évangile et on les a menacés de ne pas prêcher l'Évangile, de ne plus prêcher par rapport à Jésus-Christ. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont tous réunis, ils ont prié pour que le Seigneur leur donne encore plus d'assurance pour prêcher l'Évangile. Et le lieu où ce qu'ils étaient a tremblé, ils furent tous, encore une fois, remplis du Saint-Esprit. Et c'est par la suite qu'on lit qu'ils rendaient avec beaucoup de force témoignage. Donc, l'autorité, ils ont compris que même si les autorités humaines et terrestres voulaient les empêcher, eux autres, ils avaient une autorité céleste provenant du Seigneur Jésus-Christ qui leur donnait ce droit de prêcher l'Évangile à toutes les nations, à toute personne, à toute créature en situation favorable ou non. Cette autorité était là et donc ils pouvaient aller de l'avant. Ils ont prié Ils ont été remplis et ils sont allés avec beaucoup de force, avec beaucoup de conviction pour le témoignage de Jésus-Christ et une grande grâce. Donc la faveur de Dieu reposait sur eux. Les gens pouvaient témoigner de cette grâce-là qui faisait en sorte que beaucoup de gens croyaient et que le Seigneur à chaque jour rajoutait des nouvelles âmes dans l'Église. Et tout ça parce que même si les autorités ont voulu bloquer l'Église, l'Église a continué son travail parce qu'elle a cette autorité-là spirituelle. Actes chapitre 14, verset 3, on lit également, ils restèrent cependant assez longtemps à Icône, parlant avec assurance, appuyés sur le Seigneur, qui rendait témoignage à la parole de sa grâce et permettait qu'il se fît par leurs mains des prodiges et des miracles. Encore là, on voit l'autorité sous différents volets. Premièrement, il parle avec assurance. Si tu ne connais pas l'autorité qui repose sur toi en tant qu'enfant de Dieu, tu vas difficilement parler avec assurance, tu vas difficilement prêcher avec assurance. Mais eux parlaient avec assurance parce qu'ils savaient qu'ils étaient appuyés par le Seigneur, le Elion, le supérieur, et que lui également rendait témoignage donc par des miracles. Donc non seulement il y avait une autorité pour l'enseignement, pour la prédication, mais il y avait aussi une autorité pour les miracles, pour les prodiges, pour les guérisons, pour des signes et des prodiges à travers la vie des disciples. Donc c'est important ici de comprendre. Et là, on pourrait mentionner encore plus, la liste est beaucoup plus longue de passages dans la Bible où ce qu'on voit que l'Église dispose dans le fond de cette autorité-là pour accomplir l'œuvre de Dieu sur la terre, c'est-à-dire de prêcher l'Évangile à tout le monde. Si vous regardez ici, tout ce qui est ici mentionné, ça parle d'autorité, ça parle de puissance, mais ça parle aussi de prêcher l'Évangile. Et ça, c'est important. L'Église a l'autorité de prêcher l'Évangile et d'accomplir l'œuvre de Dieu sur terre. Ce n'est pas quelque chose qui est donné par moi ou par un autre pasteur. Ça vient de la tête de l'Église, que c'est Jésus-Christ, le Dieu Très-Haut, El Yon. Et donc, ça doit nous donner une assurance, ça doit nous donner une confiance de savoir que, hey, j'ai cette autorité-là pour exercer l'œuvre de Dieu sur la terre. On pourrait même penser lorsque Paul, par exemple, l'apôtre Paul arrive à Corinthe et que Dieu lui dit de prêcher avec assurance, de continuer à prêcher parce que Dieu a un grand peuple dans la ville et donc lui dit de ne pas s'inquiéter de rien parce que la main de Dieu serait avec lui. Et donc, dans le fond, Dieu est juste en train de lui dire, tu as l'autorité de prêcher dans cette ville malgré les obstacles, malgré les oppositions. Sache que tu as une autorité supérieure à ces obstacles-là. Donc va parce qu'il y a un travail à faire. Il faut que tu accomplisses l'œuvre de Dieu à Corinthe. Donc tu as cette autorité-là et ma main est avec toi. Il n'y a rien qui va te nuire. Il n'y a rien qui va venir t'arrêter dans le fond parce que tu as cette autorité-là. Et on pourrait, comme je dis, poursuivre et aller dans plein d'autres passages. Peut-être vous-même, vous en connaissez quelques-uns que vous avez en tête, parce qu'on parlait, eh oui, dans le fond, c'est vrai. Les disciples travaillaient ou allaient avec une autorité pour faire l'œuvre de Dieu. Donc, le premier point ici, le premier regroupement, c'est cela. Dieu a donné l'autorité à l'Église pour accomplir l'œuvre de Dieu. L'autre aspect, c'est l'autorité pour avoir la supériorité sur ses ennemis. Et ses ennemis, ce n'est pas l'homme, ce n'est pas la chair et le sang, c'est vraiment les autorités spirituelles. Nous lisons dans Matthieu, encore un classique, Matthieu chapitre 16, verset 18. Parfois, on ne le voit pas de l'angle de l'autorité, mais je pense que ça doit nous rentrer dans le coco, que c'est important et c'est fondamental de savoir quels sont mes droits, quelle est ma juridiction, quelle est l'autorité avec laquelle je suis appelé à vivre. et à fonctionner. Et dans quelle sphère, dans quel domaine cette autorité-là s'applique? Et c'est important pour pas qu'il y ait de l'abus et du dérapage. Et après ça, on prend l'autorité qu'on a reçue et qu'on l'applique dans d'autres sphères où est-ce qu'on n'a pas de juridiction, où est-ce que le Seigneur ne nous a pas donné de l'autorité en tant que telle. Et donc, et moi, je te le dis que tu es pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Donc, une autorité de l'église pour faire son travail, mais également pour aller au-delà de tout le même jusqu'à la mort. Un autre élément, alors il appela les 12 et il commença à les envoyer deux à deux en leur donnant le pouvoir sur les esprits impurs. Ça, on l'avait déjà vu dans le passé et c'est également ce qui revient ici. Dieu donne une autorité à des êtres humains sur des démons, sur des esprits impurs et on le voit à travers tout le ministère de Jésus-Christ. On le voit à travers les actes des apôtres également, que c'est une réalité. Là, je vais devoir connecter mon ordinateur parce que j'ai oublié de faire le branchement. Puis là, c'est en train de dire que ça va peut-être me lâcher dans quelques instants. Donc, ce ne sera pas très long. Il doit être par là-bas, là. Ce ne sera pas très long parce que sinon. Donc, on poursuit. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Également, ça c'est quelque chose que le Seigneur même mentionne. Et comme on disait, Jésus-Christ étant la tête, c'est lui qui dit, je vous ai donné le pouvoir. Et encore ici, le pouvoir, c'est la vraie traduction, c'est l'autorité. Donc, je vous donne autorité. Vous avez un droit. Une juridiction par-dessus toute la puissance de l'ennemi. Marquez, il est bien dit, sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien, rien ne pourra vous nuire. Il n'est pas en train de dire, oh, ils auront quand même un certain avantage sur vous, ou oh, vous ne pourrez jamais vraiment les amener sous autorité ou les amener à soumission. Vous n'aurez pas vraiment d'efficacité contre eux dans le domaine spirituel. Non, 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 non. Jésus est en train de dire, l'autorité que je vous donne, elle est sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Jésus ici vient mettre clair les paramètres de l'autorité de l'Église vis-à-vis la puissance de l'ennemi. Et ça, c'est important encore une fois. Parce que beaucoup de chrétiens ont peur des démons. Beaucoup de chrétiens, on leur parle de démons, on parle de choses de l'ennemi, de puissance de l'ennemi, ils s'en vont, ils vont se cacher, ils ont peur, ils se cachent. Mais et l'ennemi sait très bien lorsqu'un croyant ne connaît pas son autorité, ne vit pas dans son autorité, l'ennemi sait très bien, il va en profiter. Et donc, bien-aimé, c'est important, c'est fondamental. C'est fondamental. Si on veut être une église qui va avoir un impact, on doit comprendre c'est quoi notre autorité. Qu'est-ce que Dieu a mis entre nos mains? Et là, c'est clair. Jésus le dit, vous avez autorité sur toute la puissance de l'ennemi. Donc, s'il y a des choses qui vous tracassent, s'il y a des tourments, s'il y a des problèmes, utilisez l'autorité en Jésus-Christ. Il faut utiliser cette autorité-là qui vient de Jésus-Christ sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Écoutez, c'est clair. J'ai rien d'autre à rajouter là-dessus. Ensuite, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. 2 Corinthiens chapitre 10, versets 4 et 5. On nous parle ici des armes avec lesquelles nous combattons. Donc, ça nous parle de puissance, mais ça nous parle aussi d'autorité. Parce que nous avons une puissance et nous avons des armes et nous avons le droit d'exercer ce pouvoir. Pas contre ton frère, ni contre ta sœur, pas contre ton voisin, pas contre le premier ministre ou ton patron, pas contre ton pasteur, contre les puissances, les forces spirituelles et pour renverser tout raisonnement, mais également pour amener toute pensée. Toute pensée, c'est-à-dire toute idée, toute opinion, toute image, tout raisonnement, toute connaissance, toute parole. Tout ce qui touche au domaine de la pensée, tu as l'autorité d'amener tout ça. Et pas juste ce qui se passe dans ta tête. C'est pas ça qu'il parle. Il parle de partout. Tu rentres dans un lieu de travail, Seigneur, les forteresses, tu m'as donné autorité sur les forteresses spirituelles dans ce lieu. Seigneur, tu me donnes autorité sur les raisonnements dans ce lieu et sur toute pensée pour qu'elles soient toutes amenées captives. Donc, comme on disait tout à l'heure dans la définition, l'autorité, c'est le pouvoir d'imposer l'obéissance. Eh bien, c'est ça. Une autorité, un pouvoir pour imposer obéissance même à la plus petite pensée, au plus petit concept, à la plus petite idée. Tu as cette autorité-là dans les sphères spirituelles et pour renverser les forteresses, également les pensées qui deviennent fortes, qui deviennent des forteresses qui influencent la vie des gens, eh bien, l'autorité de l'Église va également jusqu'à cette dimension-là. Donc, c'est important de savoir ces choses-là. Aujourd'hui, tu peux rentrer dans un lieu de travail, dans un nouveau travail, dans l'école, tu peux aller dans un endroit et spirituellement, prendre autorité dans le monde spirituel pour que tout soit soumis à Christ. Pas soumis à toi, soumis à Christ. Et ça, tu peux le faire et déjà, tu peux voir également une différence parce que le Seigneur nous a donné cette supériorité sur toute la puissance de l'ennemi. Et on le voit encore dans Colossiens chapitre 2, verset 15, qu'il a dépouillé les dominations et les autorités. Et les a livrés publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Et également, la prédication de Jésus-Christ crucifié, ce message est une autorité, est un message que les principautés spirituelles ne peuvent pas supporter. Ne peuvent pas supporter que Jésus-Christ est venu en chair, ne peuvent pas supporter que Jésus-Christ est mort, et ne peuvent pas supporter que Jésus-Christ est ressuscité. L'ennemi ne peut rien contre ça, n'est pas capable de supporter. Et par là, on voit la supériorité de notre Seigneur, de notre Dieu. Il est Elion, le Dieu très haut, et c'est l'autorité avec laquelle l'Église est appelée à fonctionner. Donc, une autorité pour faire, l'accomplir l'œuvre de Dieu, faire le travail de Dieu. Donc, une autorité pour servir et une autorité également pour faire face à l'ennemi, faire face à l'adversaire. Et je le répète, l'adversaire, c'est pas ton voisin, c'est pas ta sœur, c'est pas ton frère dans le Seigneur, c'est pas le pasteur. C'est pas le premier ministre, c'est pas ton patron, c'est pas ton père, c'est pas ta mère. L'ennemi, c'est le diable et ses acolytes qui cherchent à te détruire pour t'empêcher que ou empêcher que l'œuvre de Dieu se fasse sur terre. Tu es l'Église en 2021. Tu es le peuple de Dieu aujourd'hui qui est appelé à vivre dans un standard. Que probablement tu ne l'as pas encore atteint. Et je t'invite à chercher la face de Dieu, à te consacrer davantage pour atteindre ce niveau-là de service, mais aussi d'autorité, pour que tout ce que tu vas faire comme service ait un plus grand impact pour l'œuvre de Dieu. Et qu'également, tu puisses voir que tu as la puissance et l'autorité sur l'ennemi, sur les situations. Tu as une autorité. Tu as l'autorité. Ceux qui croient en son nom chasseront les démons, imposeront les mains sur les malades. Ils seront guéris. Dieu a donné cette autorité-là à l'Église. L'Église peut le faire. L'Église doit le faire. Ça fait partie de ses activités. Ça fait partie de son mandat. Donc, allons-y avec cette autorité que le Seigneur nous a donnée. Je pense que ça devrait nous donner assurance, nous donner confiance dans un temps d'incertitude, dans un temps où est-ce qu'il y a beaucoup d'insécurité, où est-ce qu'on ne connaît pas quel va être le lendemain, de savoir que nous pouvons marcher avec confiance, avec assurance, mais aussi avec autorité. Eh bien, ça change pas mal le portrait, ça change pas mal la portée aussi. Donc, je vous encourage à explorer davantage cela. Et n'oubliez pas une chose, l'impact de cette autorité, elle est conditionnelle à la consécration que vous et moi allons avoir face au Seigneur. Donc, en résumé, on revient sur la définition qui est le pouvoir de choisir. C'est une permission, une autorité, c'est un droit, c'est une juridiction sur un territoire ou sur un ensemble de personnes. C'est également le pouvoir d'imposer l'obéissance. Et l'autorité de l'Église, elle est déléguée par Dieu et elle est conditionnelle à l'obéissance à sa parole. Et que la consécration, elle est importante parce qu'elle amène le peuple à refléter Dieu, à être un témoignage de Dieu et à refléter qui il est, entre autres le Très-Haut, le Supérieur, El Yon. Et le contraire également est une possibilité. Évitons de nous retrouver dans cette situation-là. Recherchons plutôt à être dans cette position-là de El Yon, plutôt que dans le contraire. Donc, cherchons vraiment à nous consacrer davantage au Seigneur là-dessus. Et qu'est-ce qu'on peut dire également, comme on a vu l'autorité donnée à l'Église? Eh bien, on peut la regrouper sous deux volets. Premièrement, une, c'est pour lui permettre d'accomplir l'œuvre de Dieu sur terre et pour lui permettre également d'avoir la supériorité sur ses ennemis. Et je clarifie et je reviens là-dessus, spirituel. Donc, la semaine prochaine, Dieu voulant, on va peut-être terminer ce volet-là de l'autorité en parlant de l'autorité dans l'Église. Je pense que aussi ça pourrait être quelque chose d'intéressant pour nous de découvrir davantage un peu. Ça va toucher l'ordre, l'organisation ou la structure qu'on retrouve dans l'Église. C'est le plan pour l'instant. Ça se peut que les choses changent. Dieu est souverain, c'est lui qui a l'autorité. Donc, ça se peut que mercredi prochain, je revienne avec un autre sujet. Peut-être. Mais l'important, c'est de ne pas oublier par quelle autorité l'Église fonctionne. Qui a mandaté l'Église? Et avec quelle autorité est-ce que l'Église fonctionne et travaille? Et pourquoi est-ce que l'Église a cette autorité-là? Je pense qu'aujourd'hui, du moins, on a pu faire un petit survol. Et pourrez toujours plus méditer et faire d'autres recherches davantage vous-même de façon individuelle. Vous pouvez le faire, il n'y a aucun problème avec ça. Donc, on va prier. Seigneur, on te rend grâce, on te remercie, Seigneur, pour le partage de ta parole. Parce que tu es bon, Seigneur. Parce que tu es fidèle. Parce que tu es El Yon, Seigneur, le Très-Haut. Tu es le Dieu Très-Haut, supérieur, Seigneur, sur toutes choses. Et cette autorité-là, Seigneur, tu nous amènes et tu nous appelles à la refléter également de façon spécifique, Seigneur, dans le travail que nous devons, Seigneur, accomplir sur terre, mais également, Seigneur, face à nos ennemis, face à l'ennemi qui veut nous détruire, face à l'ennemi qui veut nous empêcher d'être l'Église et de faire le service et le travail, Seigneur, à laquelle tu nous as appelés. Alors, Seigneur, merci pour cette autorité-là. Merci Seigneur parce qu'on peut amener à l'obéissance toute la puissance de l'ennemi. Merci Seigneur parce que les circonstances à partir d'aujourd'hui peuvent changer dans nos vies, dans nos familles, dans nos foyers, parce que nous connaissons, Seigneur, l'autorité que nous avons en toi. Et Seigneur, que cette autorité-là, Seigneur, peut s'appliquer, Seigneur, dans ces domaines-là que nous avons vus aujourd'hui. Merci parce que tu veux que nous soyons la tête et non pas la queue. Merci, Seigneur, parce que tu veux que nous soyons supérieurs sur toutes les nations, pas pour orgueil, mais pour que nous soyons, Seigneur, ce peuple saint, cette nation sainte, cette race élue, Seigneur Jésus, que tu t'es formé, que tu as créé avec l'Église. Donc, bénis ton peuple, Seigneur, aujourd'hui, par rapport à cette parole, Seigneur, qu'elle puisse grandir et prendre encore plus de forme dans leur vie, plus de puissance, Seigneur, plus de vigueur en eux. Dans le précieux nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Donc, que le Seigneur vous bénisse. Portez-vous bien, bonne soirée et bon restant de semaine pour ceux qui suivent les bénédictions matinales, 8h30 demain matin. Donc, que le Seigneur vous bénisse, je vous dis shalom, à la prochaine, au revoir.